extra.
I will be the greatest jobs president that God ever created. I would build a great wall, and nobody builds walls better than me, believe me.
La chronique américaine avec Valérie Beaudoin.
We will make America great again.
Rien de moins. Madame Beaudoin, bonjour.
Bonjour.
Comment tu te sens? Hey, c'est officiel, là, quand même.
Je suis honorée. Je suis honorée. Du mur ou de mon la thème?
La présentation, écoute, quand même, ça, c'est signe que tu es là pour des années.
Mais voilà, je l'espère.
Valérie Beaudoin, chercheure associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Je le disais tantôt, juste avant la pause, Bernie Sanders, il est rendu à quel âge, Bernie Sanders?
Il approche le 80, 77 ans.
Il a 77 ans. Et là, dans une vidéo, il affirme qu'il veut être le candidat démocrate pour la prochaine présidentielle.
Oui, une vidéo qui devrait sortir peut-être cette semaine. Mais ouais. Est-ce que c'est une surprise, Mathieu, parce qu'il est dans la tête avec Joe Biden des intentions de vote chez les démocrates. Joe Biden s'est même pas encore présenté, Bernie Sanders non plus officiellement. Alors, il y a quand même déjà un appui qui est là derrière lui.
Ouais.
Il a fait bonne figure face à Hillary Clinton en 2016, mais est-ce qu'un progressiste de cet âge-là, un homme blanc avec son CV, est-ce qu'il pourra se rendre jusqu'à la nomination? Parce qu'on le sait, c'est quelqu'un qui se décrit comme un démocrate socialiste.
C'est un populiste de gauche, là, Bernie Sanders.
Exactement. Est-ce que alors les États-Unis sont prêts à ça quand ils ont un choix entre Donald Trump? Est-ce que ça fait peur aux gens d'affaires? Oui, c'est très certain d'avoir quelqu'un comme ça. On le sait, là, la menace du socialisme aux États-Unis.
Ouais, ça passe pas très bien.
C'est utilisé par les républicains à toutes les sauces et c'est peut-être ça qui va se passer si Bernie Sanders est le candidat nommé aux États-Unis pour les démocrates. Mais il est quand même, si je disais, Joe Biden est en tête dans les intentions de sondage, même s'il s'est pas encore présenté, l'ancien vice-président de Barack Obama. Ensuite, c'est Bernie Sanders, puis Kamala Harris. Alors, il fait quand même bonne figure. On sait que Bernie Sanders a aussi commencé à regarder qui pourrait faire partie de son équipe. Alors, ça semble vraiment être quelque chose presque d'acquis, de fait. Il devrait bientôt lancer sa campagne. Est-ce que ça sera un comité exploratoire comme Elizabeth Warren le fait au début, avant de lancer officiellement sa campagne, ou directement il va se lancer dans la course?
Y crois-tu?
C'est difficile à dire. Je veux pas mouiller parce qu'on a eu tellement de surprises en 2016,
ouais.
mais disons que d'avoir un candidat comme ça, il y a tellement de femmes qui vont se présenter, des gens des minorités. Est-ce qu'on va vouloir aller vers ça pour faire changement? Mais en même temps, est-ce qu'on est prêt à élire une femme biraciale comme Kamala Harris, qui est d'origine indienne, entre autres, qui est d'origine aussi afro-américaine d'un côté? Est-ce que on est prêt à ça aux États-Unis? C'est à voir, vraiment, là, mais...
Mais le parti a réservé quelques surprises quand même aussi.
Oui.
T'as eu de ces gens qui ont été élus au mi-mandat, qui ont passé au travers d'investitures locales, auxquelles on ne s'attendait pas du tout, qui arrivaient complètement du champ gauche, c'est le cas de le dire.
Alexandria Ocasio-Cortez, qui était une social-démocrate aussi, qui se décrit comme ça, qui est près de Bernie Sanders. Est-ce qu'il pourrait avoir la nomination? Oui. Est-ce qu'il pourrait battre Trump à l'élection en 2020? Ça, c'est vraiment une autre question. Je pense que ça peut faire peur à beaucoup de gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'espèce de menace socialiste, pour nous, bon, ça semble une idée un peu étrange, mais aux États-Unis, on a peur de ça. On veut pas augmenter le salaire minimum, exemple, à 15 $ de l'heure, avoir le système de santé universel.
Universités gratuites
exactement,
aussi, elle parlait de ça à l'époque.
C'est des idées très de gauche, mais est-ce que peut-être les États-Unis sont prêts pour un autre changement à l'autre extrême du spectre? Ça va être à voir en 2020.
Parlons cette fois de celle qui devait être la prochaine ambassadrice de l'ONU qui a retiré sa candidature hier.
Oui, Heather Nauert, qui elle est une ancienne journaliste, entre autres, de Fox News. Celle qui était pressentie pour remplacer Nikki Haley, qui avait annoncé dans une grande surprise sa démission il y a quelques mois, qui faisait un très bon travail là, quand même à l'ONU, qui était bien respectée, autant des républicains que des démocrates. Et elle, bon, ce qu'on lui reprochait à Heather Nauert, c'est de ne pas avoir d'expérience. Elle a été journaliste, elle a été porte-parole pendant moins de deux ans au département d'État. Et c'est quand même un poste assez prestigieux et important. Ambassadeur à l'ONU, c'est pas rien. Et là, on dit que ça a été trop éprouvant pour sa famille. On a dû scruter dans son passé et qu'elle a décidé d'abandonner sa candidature. On sait qu'elle avait fait quand même une bourde, qui avait fait le tour des médias. Elle avait dit, en parlant de la grande histoire d'amour entre les États-Unis et l'Allemagne, elle avait dit avec un sourire, on se rappelle du débarquement de Normandie pour dire écoutez, on a une histoire depuis toujours, l'Allemagne et les États-Unis ensemble, on peut dire. Les réactions se sont pas fait attendre.
C'est ça, des faits alternatifs, ça. Hein?
Oui, c'est ça.
On dit qu'il y a des historiens qui réécrivent l'histoire, mais il y a des limites à un moment donné.
Voilà.
Parlons de l'état d'urgence qui a été déclaré finalement. Là, ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait. Donald Trump l'a fait. Mais on s'attend à ce que ce soit challengé devant les tribunaux aussi, là.
Oui, tout à fait, parce que déjà, il y a des poursuites qui ont été officiellement déposées. Il y en a plusieurs autres qui vont être faites. Et ça, vraiment, ça peut avoir quand même un impact. Et Trump l'a dit dans son allocution qu'il n'y avait pas peur et il savait qu'il allait avoir des poursuites et que ça devrait se rendre jusqu'en Cour suprême où il espérait gagner. Alors, il a déjà mis la table dans son discours en disant ça. Et d'ailleurs, on peut l'entendre peut-être déclarer l'état d'urgence et pourquoi il le fait.
I'm going to be signing a national emergency. And it's been signed many times before. It's been signed by other presidents. From 1977 or so, it gave the presidents the power. There's rarely been a problem. They sign it. Nobody cares. I guess they weren't very exciting. But nobody cares. They sign it for far less important things in some cases, in many cases.
Alors, il dit que ça a été signé plusieurs fois avant, que c'était pas aussi excitant que pour...
Une disposition depuis les années 70. Là.
Exactement. Alors, ce qu'il dit un peu plus tard dans son discours, c'est qu'il y a une invasion à la frontière. C'est ce qui justifie de déclarer cet état d'urgence-là. Mais Mathieu, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'état d'urgence a été déclaré pour des crises, bon, comme le H1N1 par Barack Obama, après les attentats du 11 septembre par George Bush, après la prise d'otage à Téhéran, ça a été déclaré en 79. Alors, c'est quand même des événements, soit à l'international ou ici, qui nécessitait de prendre des mesures extraordinaires. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une crise à la frontière? Est-ce que c'est justifié? Le problème, c'est que il n'y a pas de définition claire de ces mesures d'urgence-là. Alors oui, le président des États-Unis, pour l'instant, a le pouvoir de le
faire. Autrement dit, c'est qu'il prend des budgets déjà accordés à la Défense nationale pour se servir. Il passe par la Défense nationale carrément pour faire son mur. Et ça, là-dessus, il n'y a pas besoin de l'approbation. C'est au ministère de la Défense, maintenant, d'organiser ses flûtes pour faire arriver ces choses.
Oui, il va prendre des fonds un peu partout pour faire ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est pourquoi les Républicains ont si peur de cette mesure-là. C'est le précédent que ça peut créer. Je t'explique.
Vas-y.
Est-ce que les armes à feu, c'est une crise humanitaire, une crise aux États-Unis? Est-ce que ça pourrait être une mesure d'urgence par un président démocrate en 2020, exemple, ou en 2024? Est-ce que les changements climatiques... ça pourrait nécessiter un état d'urgence. Alors, est-ce que des promesses électorales plus progressistes pourraient être utilisées par cette mesure-là? Et ça, ça fait peur aux Républicains qui ne pensent pas juste à 2020 comme Trump, ils pensent à plus loin que ça.
Il nous reste à peu près une minute. Est-ce que tu veux me parler de l'état de la Virginie? Coudonc, est-ce qu'on a trouvé finalement quelqu'un pour diriger l'état? Ou
Non, je m'en vais ailleurs. Mais je pouvais pas du tout passer à côté de la Virginie cette semaine. Ça fait quand même deux semaines qu'on s'en parle. Est-ce que tu passais l'Halloween adolescent, Mathieu?
Non, je suis un peu grand pour passer.
Ouais,
j'ai grandi vite. Moi.
OK. Parce que dans il y a un état, là, ça a fait les manchettes en octobre dernier, dans la Virginie, à Chesapeake, on pouvait avoir 6 mois de prison si on passait l'Halloween, passer 12 ans. Ça avait passé à Jimmy Kimmel.
6 mois?
6 mois de prison.
Okay.
C'était vraiment une loi. Ça a passé, ça a été la risée. Et là, le maire de la ville, il s'est dit, mon Dieu, je suis tanné de faire parler de moi. Ça n'a pas de bon sens. Je dois changer la loi pour octobre prochain. Alors, si... tu décidais d'aller passer l'Halloween ou un adolescent irait.
Oui.
Maintenant, ça pourrait être 250 $ seulement si on a plus de 12 ans et on passe l'Halloween. Et si après 8 heures, après le couvre-feu qui a été imposé, on passe l'Halloween, c'est ce qui pourrait être une mesure qui va être imposée. On devrait se décider.
Juste un amendement, non?
Non, il va vraiment changer. Une tape sur les doigts assez forte.
OK, c'est bon. Merci. Ça ressemble pratiquement à certaines lois chinoises. Soyez des nôtres tantôt. On a une entrevue assez particulière avec un homme d'affaires québécois qui fait des affaires en Chine. T'écouteras ça. Tu vas
voir, c'est assez particulier. Parfait, je vais être à l'écoute.
Il est 8h56.